Vous écoutez, on lit pour vous.
Ici, on regarde avec les mains. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 15 avril 2026 dans La Presse. Le MAI, Montréal Art Interculturel, propose une exposition d'art visuel inclusif dans laquelle les visiteurs ayant un handicap visuel ou auditif pourront vivre pleinement l'expérience. Tous les autres aussi. Le projet, au départ, était de s'intéresser à différents langages sensoriels ainsi que de regrouper des artistes ayant des handicaps. En fin de compte, ça donne une exposition qui fait que le visiteur qui voit ou qui entend bien est un peu déstabilisé, car on s'attend à ce qu'il touche les œuvres. « C'est fait pour ça », a lancé une artiste qui a surpris notre regard dubitatif le soir du vernissage de l'exposition « Wayfinders », au gré des sens au MAI, pour Montréal Art Interculturel, centre multidisciplinaire situé dans le quartier Milton Park. C'était donc l'ouverture de cette exposition qui regroupe 10 artistes, dont 2 duos. Il y avait beaucoup de monde. Une grande partie qui discutait en langue des signes et plusieurs enfants qui étaient ravis à l'idée de sortir des cadres et plus à l'aise à l'idée de se coller sur les coussins de l'œuvre Sensory Glisk. Tout naturellement. Comme s'il était attendu que l'on s'installe par terre au beau milieu d'une exposition. L'œuvre est une collaboration entre la Montréalaise Salima Punjani et l'Écossaise Greer Pester, et assurément un des coups de cœur de l'expo. Une fois que l'on a compris qu'il valait mieux cette fois laisser sa petite gêne à l'entrée. D'ailleurs, sans avoir vu l'émerveillement d'un petit qui passait d'un coussin à l'autre dans ce jardin sensoriel, nous n'aurions probablement pas pris le temps de nous installer sur le tapis pour sentir les vibrations des coussins toutous. C'est pourtant ce qu'il faut faire avec ces pièces douces, molles et colorées, qui rappellent les jeux de texture pour apprendre le toucher au bébé. La force de cette œuvre est qu'elle permet de se reconnecter à soi, même au beau milieu d'un brouhaha festif. Par un bel après-midi tranquille d'avril, ça doit être curatif comme expérience. De la musique signée, du dessin en relief. L'exposition, au gré des sens, veut rapprocher différents publics. C'est réussi. La pièce « Signer son fado » de Véro Leduc est tout aussi salvatrice. L'installation vidéo met en scène de la musique signée par l'artiste. Si on est peu habitué à la langue des signes, on la recevra comme une danse dans la nature. C'est magnifique. La pièce comporte aussi du braille intégré dans un tableau et tous les visiteurs sont invités à le toucher. Récemment, Véro Leduc était au MAI pour y faire une performance où elle invitait le public à découvrir l'art signé à travers le toucher. Autre moment fort de cette exposition, le résultat du travail que l'artiste Raphaël de Groot a fait en collaboration avec des personnes non-voyantes. Certaines ont fait des portraits en touchant le visage de leur modèle. Les dessins de cette série, Colin Maillard, ont été transposés en relief. Alors, une fois de plus, tous les visiteurs sont invités à toucher les dessins, qu'ils les voient ou non. Raphaël de Groot participait également à une activité. L'artiste invitait les visiteurs à eux aussi tenter de reproduire sur papier ce qu'ils touchaient. Le centre propose plusieurs autres activités autour de cette brillante exposition, dont des visites guidées avec les co-commissaires Aaron Richemont, Tamar Tembeck et Audrey-Anne Bouchard le 30 avril à 17h30 et à 18h30. L'entrée est libre, comme pour l'exposition, en tout temps, et aucune réservation n'est requise. Le dernier jour de l'exposition, le 16 MAI, ce sera au tour de Salima Punjani d'être sur place pour présenter son Jardin des Merveilles. Ça promet. Consultez le calendrier avant de choisir le moment de votre visite. Fait important à noter, Toutes les œuvres de l'exposition sont accompagnées de descriptions en anglais et en français, offertes en format texte, audio, LSQ et ASL, et des cartes SD seront fournies aux visiteurs utilisant un Victor Reader. C'était « Ici, on regarde avec les mains », un texte de Stéphanie Bérubé paru le 15 avril 2026 dans La Presse.
Grâce à l'IA, intelligence artificielle, les prévisions météo canadiennes bondiront vers l'avenir. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 17 avril 2026 dans Le Devoir. D'ici peu, les prévisions météo d'Environnement Canada bénéficieront d'un gain soudain de précision équivalent à une décennie d'amélioration incrémentale de ces modèles classiques. Comment? Grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle IA. L'arrivée de l'IA au sein du service canadien témoigne d'une vague de fond qui déferle partout sur la planète météo. Depuis 2024, ces outils de statistiques avancées rattrapent les modèles classiques basés sur la physique. Et leurs calculs sont, dans certains cas, 1000 fois plus rapides. L'émergence de ces modèles, encore imparfaits, bouscule ce qui était, jusqu'à présent, la chasse gardée des grandes agences gouvernementales pourvues de superordinateurs. Avec Google, Microsoft et NVIDIA, le secteur privé s'est lancé dans la prévision météo. Pour demeurer à la pointe, Environnement Canada s'apprête donc à adopter un modèle hybride qui combine l'architecture traditionnelle et l'IA. Avec cette approche, on a le meilleur des deux mondes, explique Stéphane Beauregard, un responsable de ce chantier au ministère. Le modèle d'IA a été entraîné grâce à une reconstruction des variables météorologiques, température, pression, humidité, etc., des 50 dernières années. Cette reconstruction ou réanalyse est fondée sur d'innombrables observations prélevés par des satellites, des ballons-sondes et des capteurs au sol ou en mer. Contrairement au modèle traditionnel qui calcule la météo des prochains jours en résolvant les équations de la physique atmosphérique, les modèles d'IA n'encodent pas les lois de la nature. Ils arrivent néanmoins à prévoir la pluie et le beau temps, en extrapolant les relations qu'ils ont distillées à partir des données historiques. M. Beauregard explique que le modèle d'IA d'Environnement Canada se distingue par sa capacité à anticiper beaucoup plus tôt les systèmes météorologiques majeurs comme les tempêtes de neige. Il est toutefois moins efficace pour détailler ses prévisions à une échelle fine. Et il ne donne pas certaines variables comme la pluie verglaçante. La solution? Le modèle hybride repose sur l'IA pour les grandes échelles, 2500 km et plus, mais utilise le modèle physique pour calculer les détails. Selon Environnement Canada, ces prévisions sur 6 jours seront aussi précises que celles obtenues aujourd'hui sur un horizon de 5 jours. Dans le dernier demi-siècle, les modèles traditionnels ont gagné environ une journée de précision tous les 10 ans. Un échec des sciences naturelles? En Europe, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, CEPMMT, offre des prévisions fondées sur l'IA depuis février 2025. Plusieurs indicateurs de performance ont connu une amélioration de 20 % par rapport au modèle classique. Pour faire ces calculs, le modèle d'IA consomme jusqu'à 1000 fois moins d'énergie. Les météorologues peuvent se référer aux deux outils pour élaborer leurs prévisions. Aux États-Unis, la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, a lancé en décembre 2025 un nouveau modèle météorologique fondé sur l'IA. L'outil utilise 99,7% moins de ressources de calcul que son équivalent traditionnel. Adjoint au modèle classique, il permet d'allonger la portée des prévisions de 18 à 24 heures. Personne ne sait si les modèles d'IA vont un jour entièrement remplacer les modèles physiques. Chose certaine, les faiblesses de l'IA dans les fines échelles spatiales n'ont rien d'un obstacle insurmontable. Est-ce dire que les sciences naturelles connaissent un échec face à une calculatrice qui n'a pas la moindre notion des lois de la physique? Je dirais plutôt que c'est un succès de la science interdisciplinaire, parce que tous les progrès de l'IA seraient impossibles sans la contribution des sciences de la Terre. Répond Alex Hernandez García, un membre de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, qui s'intéresse à l'IA dans les modèles climatiques. NVIDIA saute dans l'arène. Sans surprise, Google et Microsoft ont chacune développé ces dernières années leur modèle météo carburant à l'IA, respectivement nommé GenGraph 2023 et Aurora 2025. L'architecture du modèle de Google est d'ailleurs disponible en source libre. Et c'est sur ce code informatique qu'Environnement Canada a bâti son propre modèle. On l'a réentraîné complètement à partir de zéro avec des données de réanalyse et issues de nos modèles, explique M. Beauregard. Et on arrive à de meilleurs résultats que le modèle GraphCast de Google. Avant d'aboutir dans les bulletins météo officiels, les résultats des modèles sont toujours interprétés par des météorologues. Malgré cette belle performance, la compétition est féroce et l'obsolescence guette. En janvier 2026, le concepteur de puces électroniques NVIDIA présentait une famille de modèles météo fondés sur l'IA. Ces modèles, préalablement entraînés, sont disponibles en code source libre. L'un d'eux propose des prévisions à très haute résolution, ce qui représente une avancée majeure. Israël et Taïwan ont déjà adopté ces modèles. Entraîner les modèles avec les données historiques demande beaucoup de puissance de calcul. Mais une fois cette étape terminée, il est possible de pondre des prévisions météo avec un seul ordinateur. Évidemment, il faut initialiser le système avec les conditions météo actuelles mesurées par les agences gouvernementales. Une jeune pousse californienne, Windborn, commence toutefois à réaliser ses propres observations. Elle lance des ballons-sondes de longue portée afin d'alimenter son modèle météo. En juillet 2025, elle disait relâcher 300 ballons par mois à partir de 10 sites dans le monde. Son objectif? Bâtir un système nerveux planétaire avec, un jour, 10 000 ballons en vol dans le ciel. Le défi du climat qui change. Dans l'immédiat, pour rehausser la qualité des prévisions météo générées par l'IA, il faudra imposer des restrictions basées sur la physique, croit M. Hernandez García. Ces garde-fous permettront d'éviter que les inférences statistiques des modèles s'écartent de la réalité. On peut argumenter que cela consiste, en quelque sorte, à enseigner les sciences à l'IA. De telles balises pourraient aider les modèles d'IA à relever un défi délicat: prévoir les événements météorologiques extrêmes et inédits rendus possibles par les changements climatiques. Cela s'annonce difficile, puisque leurs prévisions sont fondées pour les données historiques. Pour cette raison, les modèles physiques demeurent très importants, souligne M. Hernandez García. C'était, grâce à l'IA, les prévisions météo canadiennes bondiront vers l'avenir. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 17 avril 2026 dans Le Devoir.
Des ambassades canadiennes blâmées pour leurs publications en anglais seulement sur Instagram. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir. Certains consulats et ambassades du Canada un peu partout dans le monde publient régulièrement des informations en anglais seulement sur leur compte Instagram, malgré un rappel à l'ordre du commissariat aux langues officielles, selon un sommaire de rapport d'enquête rendu public en mars 2026. L'organe fédéral chargé de veiller au respect de la loi sur les langues officielles a reçu plusieurs plaintes visant les pratiques d'Affaires mondiales Canada, le ministère responsable des ambassades canadiennes, sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Puisque les comptes relevant de l'autorité de l'institution sont nombreux et font l'objet d'une attention particulière en raison des intérêts qu'ils représentent sur la scène internationale, il est d'autant plus important qu'Affaires mondiales Canada respecte ses obligations prévues par la loi sur les langues officielles, quelle que soit la région du monde d'où ces comptes sont gérés, rappelle dans son sommaire d'enquête le commissaire aux langues officielles. Après avoir été rappelé à l'ordre une première fois en 2023, le ministère a reconnu ses torts, mais une vérification effectuée 2 ans plus tard a révélé que la situation ne s'était guère améliorée. Et ce, malgré les politiques en place et les mesures prises par l'institution pour encadrer sa présence sur les réseaux sociaux dans les 2 langues officielles, souligne le sommaire de rapport d'enquête. En 2026, une visite des comptes Instagram d'Affaires mondiales Canada révèle qu'il y a toujours des lacunes. Le consulat canadien à Boston, par exemple, a publié vendredi une invitation à regarder la partie de soccer entre le CF Montréal et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre entièrement en anglais. La description de l'image est quant à elle traduite. La plainte originale. Le commissariat aux langues officielles a commencé à s'intéresser aux publications du ministère il y a 3 ans. En 2023, une personne avait déposé une plainte qui concernait particulièrement les pages du ministère sur le réseau social Instagram. Selon son site Internet, Affaires mondiales Canada détient une 50aine de pages Instagram, dont la majorité est liée aux ambassades et aux consulats du Canada dans différents pays. Parfois, l'ambassade ou le consulat a 2 comptes, l'un en français et l'autre en anglais. D'autres fois, l'organisation dédouble ses publications dans les 2 langues sur un même compte ou tente de concilier le français et l'anglais dans une seule et même publication. Selon la personne qui a déposé la plainte, il y avait sur ses comptes davantage de publications en anglais qu'en français. Des publications sans version équivalente en français, des textes de légende de publications uniquement en anglais, ainsi que des noms et des descriptions de comptes non bilingues, indique le sommaire de rapport d'enquête. Après avoir jugé la plainte fondée, le commissaire aux langues officielles a ordonné à Affaires mondiales Canada de veiller à ce que les informations soient diffusées autant en français qu'en anglais. Le ministère, au cours de l'enquête, a reconnu ses erreurs. Il s'est engagé à respecter ses obligations linguistiques, mais 2 ans plus tard, lors d'une vérification en 2025, le commissariat aux langues officielles a remarqué que le problème persistait. Il a alors demandé au ministère de se conformer à ses obligations et de mettre en place des mesures de correction avant le 2 février 2026. Le commissariat aux langues officielles lui a demandé de réaliser une analyse des outils numériques à la disposition des gestionnaires des comptes, de fournir des formations à ses employés et de communiquer à ses employés les lignes directrices concernant l'usage des réseaux sociaux par les fonctionnaires. Dans une réponse transmise par courriel, Affaires mondiales Canada a indiqué au devoir prendre des mesures continues pour appuyer le respect des langues officielles sur ses comptes de médias sociaux. Chaque jour, notre réseau peut publier en moyenne jusqu'à 300 publications, reflétant la portée mondiale du ministère et la diversité des publics auxquels s'adressent ses communications, dont la grande majorité se trouve à l'extérieur du Canada. Dans ce contexte, le ministère veille à l'harmonisation et à la conformité de ses communications publiques, y compris en matière de langues officielles, a indiqué le ministère. C'était « Des ambassades canadiennes blâmées pour leurs publications en français seulement sur Instagram », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir.
Des neurones qui stockent et brûlent des graisses. Un texte de UDM Nouvelle, paru le 14 avril 2026 sur umontréal.ca. Une étude récente met en lumière un rôle encore peu connu des graisses dans le cerveau. Des travaux menés par des équipes de recherche canadiennes montrent que les neurones possèdent leur propre réserve lipidique, appelée gouttelette lipidique, qui jouent un rôle important dans la gestion de l'énergie dans l'organisme. Ces résultats contribuent à renouveler la compréhension du fonctionnement énergétique du cerveau. Une vision élargie du carburant cérébral. Traditionnellement, le glucose est considéré comme la principale source d'énergie des neurones. Les lipides, pour leur part, sont surtout associés à la structure des membranes cellulaires et à certains mécanismes de communication. Cependant, les mécanismes permettant aux neurones de stocker et d'utiliser les graisses demeuraient peu documentés. La présence de gouttelettes lipidiques avait surtout été observée dans des contextes pathologiques, notamment dans certaines maladies neurodégénératives. Cette étude montre qu'elles sont également présentes dans des neurones sains et qu'elles participent activement à leur fonctionnement. Un mécanisme partagé entre espèces. En combinant différentes approches expérimentales, les chercheurs ont observé que ces réserves lipidiques existent chez plusieurs espèces, des invertébrés aux vertébrés. Ils ont également identifié des mécanismes biologiques permettant de contrôler leur formation et leur utilisation. Lorsque ces mécanismes sont perturbés, des effets significatifs apparaissent, notamment une accumulation de graisse dans l'organisme et des modifications du comportement alimentaire. Un impact sur l'équilibre énergétique. Les résultats montrent que ces réserves lipidiques influence directement plusieurs paramètres liés à l'énergie, comme la prise alimentaire, les dépenses énergétiques et le poids corporel. Ces effets ont été observés dans différents modèles biologiques, ce qui renforce l'idée d'un mécanisme fondamental. Certaines différences ont également été notées selon le sexe, suggérant que la régulation énergétique pourrait varier entre individus. Un rôle au cœur du fonctionnement cellulaire. À l'échelle des cellules, les lipides libérés par ces réserves participent à plusieurs fonctions essentielles. Ils contribuent notamment à la structure des membranes, au fonctionnement des mitochondries ainsi qu'à l'activité du réticulum endoplasmique impliqué dans la production de protéines. Ces observations s'inscrivent dans un courant de recherche émergent qui considère les lipides comme une source d'énergie complémentaire pour les neurones. De nouvelles pistes de recherche. En remettant en question l'idée que le glucose serait l'unique carburant du cerveau, cette étude ouvre de nouvelles perspectives. Elle pourrait contribuer à mieux comprendre certains troubles liés au métabolisme, comme l'obésité, le diabète de type 2 ou certaines maladies affectant le cerveau. Elle souligne également l'importance de poursuivre les recherches sur les mécanismes énergétiques à l'échelle cellulaire. C'était « Des neurones qui stockent et brûlent des graisses », un texte de UdeM Nouvelles, paru le 14 avril 2026 sur umontréal.ca.